Une situation totalement inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. 220 000 personnes ont été évacuées en Gironde. Emmanuel Macron déclare qu'on va gagner cette bataille ensemble. Un homme aux propos incohérents attaque trois femmes au couteau en plein Paris. Parmi les victimes, une femme en fin de grossesse. Une autre se trouve en urgence absolue. Ses motivations restent floues. L'actualité judiciaire toujours et l'ADN a parlé. Les ossements découverts dans les Bouches-du-Rhône sont bien ceux des deux militaires du Pacifique portés disparus. Les investigations pour connaître les causes de la mort de Jacques Paquesso, originaire de Nouméa, et Mike Gineste, né à Tahiti, se poursuivent. Le football et Kylian Mbappé qui remercie les supporters français. Le capitaine des Bleus regrette de ne pas avoir gagné la Coupe du Monde, mais il salue le soutien du public, de ses coéquipiers et du staff. La météo en Nouvelle-Calédonie, le ciel se dégage sur le sud tandis que le nord se couvre avec le passage de bandes nuageuses. Les averses passagères concernent essentiellement le nord de la côte est et des Loyautés. Quant aux températures, elles oscillent entre 22 et 26 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité en métropole.
Oui, Emmanuel Macron auprès des pompiers mais aussi des élus en Gironde. Le président de la République vient témoigner du soutien de la nation à ce département ravagé par l'un des pires incendies depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 42 000 hectares de forêt parcourus par les flammes, 240 habitations détruites. Après 6 jours de lutte acharnée, le sinistre est contenu mais pas encore fixé. Des reprises de feu signalées ces dernières heures. Emmanuel Macron appelle donc tous les acteurs à faire preuve de résilience.
Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je pense qu'il faut qu'on soit lucide. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir. Évidemment, la clé, c'est l'urgence, donc résister. Et donc la clé, c'est tout ce qu'on va apporter encore en soutien auprès de l'ensemble des forces, sous l'autorité de Madame la Préfète et auprès évidemment du ministre et du directeur général pour continuer de stabiliser ce feu comme vous êtes en train de le faire, de pouvoir vraiment ensuite le fixer et puis le battre définitivement, mais ça prendra, on le sait, du temps. On a des conditions météorologiques qui sont très dures, la température va remonter, les vents sont là. Et on a ce phénomène très rare de pyrocumulonimbus. Cette bataille, on va la gagner ensemble et on mettra tout ce qu'on peut pour gagner cette bataille.
La métropole vit donc des heures décisives dans la lutte contre ce gigantesque incendie. Une nouvelle vague de chaleur est attendue dès aujourd'hui sur une grande partie du territoire. Des températures élevées propices aux reprises de feu. 2750 pompiers restent mobilisés. On compte 88 blessés dans leur rang depuis mercredi dernier. L'Union européenne enverra des renforts supplémentaires dès aujourd'hui avec un total de 9 avions et de 2 hélicoptères. Une aide européenne particulièrement précieuse alors que certains représentants des sapeurs-pompiers dénoncent un manque de moyens pour lutter efficacement contre les incendies. Une polémique qui agace Laurent Nunez, longuement interrogé sur le sujet à l'issue de cette nouvelle cellule interministérielle de crise. Le ministre de l'Intérieur s'emploie à défendre la gestion de crise du gouvernement et réfute tout manque d'anticipation. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Oui, critiqué depuis plusieurs jours, le gouvernement impose désormais son narratif. Sébastien Lecornu annonce l'arrestation de 162 pyromanes depuis le 6 juillet dernier. Ils répondront de leurs actes, assure le Premier ministre. De son côté, Laurent Nunez défend ses troupes et répond à la polémique sur les canadairs qu'il juge ridicule.
Je suis sidéré, effaré de voir qu'on commente notre flotte aérienne et nous avons donc ces 12 canadairs et nous avons 8 Dash. On est passé de 2 à 8 Dash en très peu de temps et on a eu 6 Dash nouveaux qui ont été livrés entre 2019 et 2023. Donc il faut arrêter de dire que notre flotte n'a pas été renouvelée, que notre flotte n'est pas à niveau, c'est une flotte diversifiée.
Le ministre de l'Intérieur rappelle également que 2500 sapeurs-pompiers et 1500 militaires sont déployés sur le terrain. À la fin de cette réunion de crise au service départemental d'incendie et de secours de Bordeaux, Emmanuel Macron a martelé son engagement auprès des sinistrés. Nous serons là pour vous et nous gagnerons la bataille ensemble, affirme le chef de l'État.
Et cet incendie en Gironde donne lieu à la plus grande évacuation en France depuis la Seconde Guerre mondiale. 220 000 personnes ont dû quitter leur maison dans une vingtaine de communes. Plus de 5 000 d'entre elles se trouvent donc réfugiées au parc des expositions de Bordeaux, réquisitionnées pour accueillir les déplacés. Et la solidarité s'organise pour répondre aux besoins essentiels. Nourriture, boissons et même des jeux pour les enfants. Le reportage d'Emma Ben-Youssef Sudarovitch pour Europe 1.
Sur le parvis du hall 4, un véritable ballet se déroule. Des dizaines de bénévoles glissent entre les stands pour trier les dons qui n'en finissent pas d'arriver par camion.
C'est arrivé de toute région, et de Carcassonne, de Toulouse.
Eric est l'un des chefs de la logistique du site qui tourne jour et nuit.
Il y a toujours quelqu'un 24 heures sur 24. Alors, il y a de la fatigue, mais on prend un petit peu de sucre et ça repart. Et s'il faut, il faudra tenir 10 jours, 15 jours, on tiendra.
Tenir pour les soldats du feu qui ne se reposent jamais, tenir pour les sinistrés qui ont tout perdu. C'est le mot d'ordre qui maintient les volontaires éveillés. Ça fait plus de 15 heures que Camille, chargée d'événementiel de profession, trie les denrées.
J'avoue, je ne sais même pas quelle heure il est. Je suis assez dans mon élément, on va dire. Le fait de devoir aller vite, etc., de ne pas forcément beaucoup dormir et devoir faire au mieux pour tout le monde. Donc c'est pour ça que j'arrive à tenir plus que d'autres personnes qui pourraient avoir craqué un peu avant.
Flancher, c'est un mot qui ne fait pas non plus partie du vocabulaire de l'équipe d'espoir de l'Union Bordeaux-Bègles, venue en renfort au parc des expositions.
D'abord, on avait travaillé avec des palettes. Après, il y avait un autre groupe qui aidait les gens à pousser des voitures parce qu'il y a beaucoup de voitures, ils n'ont plus d'électricité. Il y a beaucoup à faire, quoi. On est tous bordelais, on joue tous dans la même équipe et ça nous lie.
C'est ce lien humain qui les pousse tous à être ici aujourd'hui, mais surtout à vouloir rester jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin d'eux.
Le reportage d'Emma Ben-Youssef Sudarovitch pour Europe 1. Dans le Var, à présent, le feu a parcouru 4500 hectares dans le secteur de Cotignac, Pont-Évès et Barjols. Il n'est toujours pas fixé après 6 jours de lutte acharnée. Et à seulement quelques kilomètres de là, dans le village de Varage, les pompiers ont fait face à 3 départs de feu, quasi simultanés, hier. Le préfet du Var dénonce des actes inadmissibles. Une enquête de gendarmerie est ouverte. Le reportage auprès des populations des zones touchées, signé Frédéric Michel pour Europe 1.
Ils regardent leurs forêts, leurs collines brûlées depuis une semaine et ne s'en remettent toujours pas. Alors quand cet agriculteur de Montfort-sur-Argent a appris qu'un incendiaire pourrait être à l'origine des feux de barrage, son premier sentiment a été la consternation.
3 départs, je ne sais pas si c'est le même incendiaire, mais bon, on est choqué qu'il y ait des gens qui aient dans l'idée de faire brûler tout le département, quoi. C'est aberrant.
Arthur habite Barjols, où le feu n'est toujours pas fixé.
Ça met en colère parce que par rapport à tout le travail que font les pompiers, c'est leur rajouter du travail supplémentaire, rajouter du stress aux habitants, alors qu'on habite une belle région. Moi, je trouve ça dégueulasse.
Si certains essayent de comprendre ce qui pousse les incendiaires à passer à l'acte...
La fascination du feu, les réseaux sociaux, ça peut exciter. Il y a tout ça qui rentre en compte.
D'autres attendent de lourdes sanctions.
Je voudrais que ce soit juste puni à la hauteur d'un acte criminel et que voilà, c'est ça qu'on veut, c'est juste de la justice. C'est un crime contre l'humain, contre la nature, contre tout un tas de choses. Ça révolte.
Et sur le feu de Pont-Évès qui dure depuis près d'une semaine maintenant, 1000 sapeurs-pompiers sont toujours engagés, notamment sur les 160 km de lisière de forêt qu'il faut désormais traiter à pied pour éviter toute reprise de feu.
Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1 dans le Var. La Corse est également à son tour frappée par les flammes. Plusieurs incendies sont toujours actifs en Haute-Corse, à Corté, dans le centre montagneux de l'île, et dans une commune située à une dizaine de kilomètres au sud de Bastia. Au total, plus de 1100 hectares ont été parcourus par le feu. Les sapeurs-pompiers sont donc mobilisés sur 2 fronts. Laura Legault pour Europe 1.
Oui, à 10 km au sud de Bastia tout d'abord, où depuis samedi, un feu de maquis a brûlé 160 hectares. Les sapeurs-pompiers ont réussi à ralentir sa progression, mais ils continuent de faire face à un autre front, à Corté, où depuis le 16 juillet, 296 sapeurs-pompiers luttent activement contre un feu de forêt. Plus de 1000 hectares ont été parcourus par les flammes. Le feu n'est pas maîtrisé, comme l'explique le lieutenant-colonel Jean-Noël Rigaud, chef du groupement opérationnel.
On a encore sur ce chantier plusieurs foyers actifs, notamment dans la vallée de la Restogne et dans la vallée du Tavignan. C'est des endroits qui sont très difficiles à atteindre. La vallée du Tavignan, elle, est totalement inaccessible par voie terrestre et nécessite l'héliportage de personnel qui ensuite vont traiter chaque point chaud.
Pour appuyer les moyens au sol, 2 Canadair et 3 hélicoptères bombardiers d'eau sont déployés. Le commandant des opérations est catégorique. Plusieurs jours de lutte seront encore nécessaires pour vaincre cet incendie.
Laura Legault pour Europe 1.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. On constate l'ampleur dramatique des feux de forêt en métropole. La Nouvelle-Calédonie est-elle, selon vous, suffisamment préparée à la lutte contre ce type d'incendie? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Voici maintenant la réponse à notre question d'hier. 64% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que notre Miss Nouvelle-Calédonie 2026, Lana Prost, a des chances de bien figurer dans l'élection de Miss France. France. Ils sont 36% à ne pas partager cet avis. Merci de votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Et justement, qui est Lana Prost? Quel est son parcours et quels sont ses projets? Nous aurons l'occasion de mieux faire connaissance avec Lana Prost puisque la nouvelle Miss Nouvelle-Calédonie sera notre invitée dans le journal de 11h30 samedi soir. Elle a été élue Miss Nouvelle-Calédonie 2026 et succède ainsi à Juliette Collet. Elle aura pendant un an la charge de faire rayonner la Nouvelle-Calédonie, notamment lors du prochain concours de Miss France. Ce sera au mois de décembre. Rendez-vous donc tout à l'heure dans le journal de 11h30. En attendant, il est 6h passées de 42 minutes. Merci d'être avec nous. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité qui concerne la Nouvelle-Calédonie et notamment dans l'actualité judiciaire. Cette enquête qui avance en métropole, l'ADN a parlé. Les ossements découverts dans les Bouches-du-Rhône sont bien ceux des deux militaires du Pacifique, dont un originaire de Nouméa, porté disparu depuis 2022 et 2023. On en parle juste après la pub.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
La Mutuelle du Nickel est heureuse de vous accueillir dans son nouveau centre au PK7 rue Jacques-Yécaoué. Venez découvrir votre nouvel espace santé avec les opticiens, l'audition et l'ophtalmologie mutualiste ouvert à tous les mutualistes. La Mutuelle du Nickel, votre santé, notre priorité.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Dans l'actualité judiciaire en métropole, c'est donc confirmé. Les ossements découverts dans les Bouches-du-Rhône fin mai sont bien ceux des deux militaires du Pacifique portés disparus depuis 2022 et 2023. Le parquet de Toulon précise que les familles des deux victimes, Jacques Paquesso, né en 1997 à Nouméa, et Mike Gineste, né en 1988 à Tahiti, ont été informées de cette identification, Léo Fichou.
Une information judiciaire ouverte dans ce dossier a conduit à la mise en examen d'une mère et de ses deux fils qui sont soupçonnés du meurtre des deux militaires. Tous trois, ainsi que le père et l'une des deux filles de cette famille, sont par ailleurs poursuivis pour traite d'êtres humains en bande organisée et séquestration en bande organisée. Les enquêteurs soupçonnent cette famille, dont la mère est originaire de Nouvelle-Calédonie, d'avoir ciblé des soldats venant d'outre-mer en les hébergeant pour les dépouiller, les séquestrer et parfois les tuer. Les faits peuvent avoir débuté dès 2011. Sept militaires du Pacifique ont affirmé aux enquêteurs avoir été progressivement dépouillés de leurs moyens de paiement, mais aussi de leurs documents d'identité, avant d'être victimes de violences et de séquestration. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances précises dans lesquelles Jacques Paquesso et Mike Gineste ont trouvé la mort. Le parquet de Toulon maintient par ailleurs son appel à témoins afin de recueillir d'éventuelles informations sur d'autres disparitions de personnes originaires des îles du Pacifique ayant séjourné dans le Var au cours des dernières années.
Radio Rythme Bleu, 6h44.
L'actualité institutionnelle et le congrès de la Nouvelle-Calédonie qui est convoqué en séance publique ce matin à 9h pour l'examen des projets de délibération relatifs à la approbation des comptes administratifs et de gestion de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice 2025. Ce sont 5 projets de délibération au total qui seront soumis aux élus. Des textes qui dresseront l'état des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie à la fin de l'exercice 2025. Et rappelons qu'après cette séance consacrée aux comptes administratifs, les élus du Congrès seront de nouveau convoqués vendredi pour élire les 11 membres du 19e gouvernement. Depuis ce week-end, le transport et la consommation d'alcool sont interdits à Yaté et ce sera le cas jusqu'à dimanche qui sera le jour de la fête communale. Le maire, Louis Aumou, a pris cette décision alors qu'hier, la justice organisait une reconstitution. Il s'agissait de mieux comprendre ce qui s'est passé au sein de la tribu de Toaourou en février 2024. Un conflit au sein de la tribu avait abouti à la mort de 2 personnes. C'est donc pour assurer la tranquillité publique lors de cette reconstitution que le maire a pris cet arrêté qui s'ajoute à d'autres mesures, nous a-t-il dit hier.
Concernant la mairie d'Yaté, nous on a été pris par des nombres concernant l'arrêté pour la fermeture de la route de 3h jusqu'à 7h de la nuit à minuit. Pour les écoles, on a, par mesure de précaution, on a préféré fermer les établissements scolaires de la commune pour aujourd'hui. Ça reviendra à la normale dès demain. C'est pour la reconstitution elle-même pour que ce soit serein la partie judiciaire. Ça se passe très bien.
Et la reconstitution s'est terminée hier et les écoles de la commune sont donc ouvertes ce matin. Deux jours après l'incendie criminel qui a touché le lycée Saint-Jean 23 de Païta, la direction a réuni hier l'ensemble de l'équipe éducative. Les étudiants de BTS ont repris les cours, tandis que les autres élèves seront accompagnés à distance via Pronote, téléphone ou messagerie, afin d'assurer la continuité pédagogique. Des supports papier sont également disponibles au CDI dès aujourd'hui pour les familles sans accès à Internet. Pour rappel, le restaurant d'application du lycée a été incendié samedi soir. Un incendie, selon les premières informations, d'origine criminelle. Une enquête est en cours. J'ajoute que le maire de Païta, Antoine Romain, sera notre invité du matin tout à l'heure à 7h30. L'occasion d'évoquer avec lui les conséquences de l'incendie du restaurant d'application du lycée Saint-Jean 23. Nous l'interrogerons aussi sur la rénovation de l'arène du Sud qui est inscrite dans la vague 2 du plan de relance. Une interview dans laquelle nous évoquerons également la préparation de la prochaine fête du bœuf. Des Calédoniens intègrent les meilleures écoles de management françaises. Une vingtaine d'étudiants a passé les concours pour intégrer les grandes écoles en suivant les cours préparatoires du lycée d'Ikukewe. Les résultats sont tombés le 18 juillet dernier et sont plus que satisfaisants. Les étudiants se sont démarqués en décrochant des écoles dans le top du classement CIGEM, nous a dit Marie Parterski, professeure de maths au sein des classes préparatoires.
C'est un classement national des écoles de commerce. On connaît classiquement le top 5, HEC, Paris, le SCP, l'ESSEC, l'EM Lyon. Ce sont des sortes en 2026 qui ont décroché le top 5, voire top 3, et le top 10, et au minimum le top 17, voire le top 11. Notre étudiante a été classée à l'ESCP, mais au final admise à l'EM. Pour la filière technologique, l'étudiante a décroché l'ESSEC. Et donc après, on a aussi tout le reste des grandes écoles comme Grenoble, École de Management, l'ISC de Paris, Montpellier Business School, etc. On est fiers, oui. On est fiers d'eux. Et on tient à les féliciter.
Des jeunes talents qui avaient pourtant commencé leur formation en 2024 dans des conditions extrêmement dégradées. Mais finalement, ces conditions ont été source de motivation selon la professeure. Ils sont lycéens et ils font de la radio. Ils ont même remporté un prix pour cela. Ce projet est mené par une classe du collège Mariotti, accompagnée par une équipe pédagogique. Et ce sera le thème du magazine Citoyen ce midi. Nous en parlerons avec Sophie Stubler, professeure de lettres, Laetitia Astier, documentaliste, et deux élèves de 4e, Émy May et Lucien Poinsonneau. Il est 6h49, vous écoutez Radio Rythme Bleu, merci d'être avec nous. On va marquer une courte pause publicitaire, on se retrouve juste après avec la suite de l'actualité en métropole.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Envie de marcher pour la bonne cause? Rejoignez la balade solidaire organisée par les sociétaires élus Groupama Pacifique le samedi 5 septembre 2026 au domaine de Deva à Bouraille. Une marche accessible à tous dans un cadre exceptionnel au profit du RESIR, réseau de l'insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie. En solo, en famille ou entre amis, choisissez votre parcours et vivez une marche conviviale et engagée. Infos et inscriptions sur inlive.nc. Groupama.
Sauvant Carrelage, c'est le spécialiste des revêtements de sol et murs, intérieurs ou extérieurs, depuis plus de 50 ans. Carrelage, sol souple, pierre naturelle, margelle, dalle. Sauvant Carrelage, 16 rue Fernand Forest, à Ducos. Plus d'infos sur sauvantcarrelage.com ou sur Facebook Sauvant NC.
Dans un cadre idyllique à Lanzvata, le restaurant Le Fun vous invite à une expérience unique et conviviale. Découvrez le concept Steak Stone, viandes et poissons à cuire sur pierre chaude. Envie de fraîcheur? Craquez pour nos salades, suggestions de la semaine ou place à la carte. Le Fun, votre Steak Stone face à la mer, ouvert 7 jours sur 7. Info sur notre page Facebook Le Fun, réservation 28 67 08.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
Une attaque au couteau en plein Paris. Ça s'est passé hier soir pour nous, porte de Clichy, dans le 17e arrondissement de la capitale. Trois femmes ont été blessées, deux d'entre elles se trouvent en urgence absolue. Parmi les victimes, d'ailleurs, une femme en fin de grossesse. Les motivations de l'assaillant sont pour le moment très floues. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Oui, puisqu'au moment de son interpellation, le suspect présumé a tenu des propos incohérents. Il a expliqué avoir obéi à un acte ordonné par Allah. Plusieurs sources policières évoquent un homme qui ne semble pas jouir de toutes ses facultés mentales. L'homme de 31 ans souffrirait de troubles psychiatriques. Il a d'ailleurs été hospitalisé à deux reprises. L'assaillant a donc attaqué trois femmes à l'aide de deux grands couteaux, comme l'explique Fabien Boguet, policier et délégué syndical chez Alliance.
On a hélas une jeune femme qui est enceinte de plusieurs mois et même en fin de grossesse. Et on a une victime qui, suite à sa blessure, est en urgence absolue. Pas de pronostic vital engagé, mais urgence absolue. Voilà, on a une blessée sur le fessier droit, on a une blessée au niveau de l'abdomen et une troisième victime frappée à coups de couteau dans le dos ou au niveau de l'épaule.
Alors à ce stade, le caractère terroriste de l'attaque n'est pas retenu, mais le parquet national antiterroriste reste en observation. Quant à l'assaillant, il a été placé en garde à vue au commissariat du 8e arrondissement. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire est actuellement ouverte.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Dans l'actualité économique à présent, une nouvelle réunion à Bercy hier soir pour surveiller les prix à la pompe. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a réuni les distributeurs pour s'assurer qu'aucun acteur ne profite des tensions au Moyen-Orient pour gonfler ses marges. Alors que la semaine dernière, les prix des carburants ont dépassé à nouveau les 2 euros le litre dans certaines stations, c'est-à-dire 240 francs. Même si depuis vendredi, aucun bombardement américain n'a été signalé en Iran. Une accalmie qui fait donc baisser les cours du pétrole, Alexis Bourdon.
Oui, moins 7% ce matin sur le baril de Brent affiché autour des 90 dollars. Les voyants sont au vert sur les marchés mondiaux, mais ce léger vent d'optimisme ne garantit pas une baisse continue, selon Salomé Ruel, professeur de management logistique à l'EMLV Business School.
C'est pas vraiment une normalisation qui est en train de se passer. Le trafic à Hormuz reste très perturbé. Tant que les navires ne circulent pas normalement, on garde une forme de prime de risque sur le transport, sur l'assurance maritime et puis sur la disponibilité du pétrole réellement livrable. Donc oui, on a une baisse, mais elle peut être éphémère si la pause militaire elle n'est pas confirmée également diplomatiquement.
Autre mauvaise nouvelle pour les automobilistes français, cette baisse du cours du baril de Brent pourrait ne jamais se faire réellement ressentir à la pompe. En effet, il existe toujours un décalage d'environ 2 semaines entre les évolutions des prix du baril de brut et ce qui est affiché en station au moment de faire le plein.
Alexis Bourdon pour Europe 1. Il existe de bonnes chances que les discussions entre Washington et Téhéran aboutissent. Déclaration de Donald Trump qui assure vouloir laisser une nouvelle chance à la diplomatie. L'armée américaine n'a plus mené de frappe sur le sol iranien depuis vendredi soir, je le disais. Téhéran toutefois dément l'existence de négociations. Il est 6h53, vous écoutez Radio Rythme Bleu, merci d'être avec nous. On va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité sportive et Kylian Mbappé qui tourne la page de la Coupe du Monde.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Toute aventure commence de la même façon. Un peu d'excitation, quelques cartons, 2 ou 3.
On l'a mis où déjà?
Ou un.
Waouh, super ce bon plan!
Avec Easy Start de Lagoon, on a ce qu'il vous faut. Profitez d'internet illimité, de la téléphonie VoIP, du nouveau modem Wi-Fi 6 et de son installation. Et en ce moment, jusqu'à 4 mois sont offerts pour toute nouvelle souscription. En plus, jusqu'au 31 août, tentez de gagner une nuit pour deux à l'Illomètre en jouant sur notre page Facebook. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur www.lagoon.nc.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur.
Alors n'hésitez plus, envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le vendredi 7 août à 14h. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance, envoyez RRB au 40-20.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et du football à la une. Et Kylian Mbappé, je le disais, qui tourne la page de la Coupe du Monde avec une lettre ouverte adressée aux Français. Une lettre publiée hier, Léo Fichou.
Oui, le capitaine des Bleus remercie les supporters pour leur fidélité tout au long du mondial. Un mondial qui s'est terminé par une défaite 6-4, je le rappelle, contre l'Angleterre lors de la petite finale. Meilleur buteur de la compétition, il reconnaît que, je cite, ça fait mal, très mal même, de rentrer sans le trophée, malgré son soulier d'or. Dans ce texte très personnel, il rend aussi hommage à ses coéquipiers, au staff et à Didier Deschamps, tout en rappelant que, je cite encore, « cette histoire, on l'a écrite à plusieurs millions de mains ». Kylian Mbappé conclut sur une note d'espoir. Il y aura d'autres matchs. On n'a pas fini de jouer ensemble. Fin de citation.
Et l'avenir de l'équipe de France devrait sans surprise de dernière minute s'écrire avec Zinedine Zidane. L'ancien numéro 10 des Bleus devrait être officialisé comme sélectionneur à 20h heure de Nouméa par le président de la 3F, Philippe Diallo. Et puis le sport sur le territoire, Léo Fichou, avec un événement à venir. Le Trail de l'Espoir, ce sera dimanche dans le Grand Sud.
Un événement organisé par Pro Events en partenariat avec Radio Rythme Bleu qui se déroulera dans la réserve naturelle du Cap Endua. Il s'agira de la 5e manche du Punch Power Trail Pro Tour. Nous en avons parlé dans le Mac des Sports avec Julie Prunet, co-gérante de Pro Events, et Yvan Baird, président du Kiwanis Club du Mont d'Or. Écoutez.
Le Trail de l'Espoir, ça a été créé en 2001. C'était le Raid de l'Espoir. Ça fait la 24e en principe, c'est indécis. Mais comme il y a deux ans, on ne l'a pas fait, le Covid et les événements, et ça fait la 22e cette année-ci.
Les objectifs, avant tout, un événement sportif et avant tout caritatif, n'est-ce pas ?
Caritatif, et on fait un levée de fonds, surtout pour les enfants et les personnes âgées, handicapées et tout.
Julie Brunet, pour Pro Events, voilà, présentons cet événement, plusieurs parcours proposés, évidemment, comme toujours, pour tous les goûts, et tout le monde profitera avant tout d'un cadre hors norme, c'est bien ça ?
Oui, donc on est sur trois distances, donc on 18 kilos, donc 18, ensuite on a un 12 km et un 4 km. Donc cette année, à la base, déjà le Trail de l'Espoir était un trail qui était fait en duo. Cette année, nous avons voulu l'ouvrir en solo pour qu'aussi il soit dans le Punch Power Trail Tour. Donc ça sera la 5e étape du Punch Power Trail Tour. Là, ça va se challenger. Ça faisait un petit peu une nouveauté. Et puis c'est vrai qu'on travaille en collaboration avec le clan Atiti qui nous aide beaucoup sur tout ce qui est gestion, camping, repas, et ce qui permet de proposer une formule immersion complète au sein du clan Atiti qui nous accueille les bras ouverts chaque année. Et ça permet de découvrir le sud d'une autre manière.
Les inscriptions pour le Trail de l'Espoir sont ouvertes jusqu'à jeudi 22h sur le site inlive.nc. Je rappelle que l'événement est prévu dimanche dans le Grand Sud.